Lorsque l'on pense aujourd'hui à la prison, on imagine immédiatement un espace fermé, composé de murs épais, de barreaux, de cellules étroites et d'une séparation nette avec le reste de la société, comme si cet univers avait toujours existé sous cette forme. La prison, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'est pas simplement un lieu destiné à contenir les individus. Elle est le produit d'une invention historique, d'une construction lente, au croisement du droit, de la philosophie et de l'architecture, qui s'élabore en France entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle. Et pour comprendre ce que signifie enfermer quelqu'un, il faut peut-être commencer par se rappeler qu'il fut un temps où l'on punissait autrement. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mémoire derrière les murs. Cet épisode sera consacré à la prison départementale et à la vie quotidienne dans un lieu où la liberté n'existe plus. Du moins, en apparence. Nous allons explorer ensemble comment cet espace carcéral s'est organisé, qui en avait la charge, comment les détenus y vivaient au jour le jour, leur tenue, leur repas, leur hygiène, leur travail, mais aussi les petits espaces de résistance qu'ils ont su préserver. Car même derrière les barreaux, l'humanité trouve toujours un moyen de s'exprimer. Pour cela, nous nous appuierons sur les archives de la prison départementale de Loches, conservées aux archives départementales d'Indre-et-Loire. Des registres d'écrous, des règlements, des inventaires qui nous permettent de faire revivre, le temps d'un épisode, celles et ceux que l'histoire a souvent oubliés. Avant la Révolution française, la prison n'occupe pas du tout la place centrale qu'elle a aujourd'hui dans le système pénal. L'enfermement n'est pas considéré comme une peine en soi, mais plutôt comme une mesure temporaire destinée à retenir les individus en attendant leur jugement ou à gérer certaines situations particulières, comme les dettes ou les troubles à l'ordre public. Dans ce contexte, la véritable punition se situe ailleurs. Elle prend des formes souvent spectaculaires, voire violentes, puisque l'on privilégie les châtiments corporels, les exécutions publiques ou encore des peines comme le bannissement, qui ont pour objectif non seulement de sanctionner, mais aussi de marquer les esprits. Ainsi, la justice de l'Ancien Régime repose en grande partie sur une logique d'exposition, dans laquelle la peine doit être visible, exemplaire et dissuasive, au point de devenir une véritable mise en scène du pouvoir. Au cours du XVIIIe siècle, cette manière de punir commence toutefois à être remise en question par les penseurs des Lumières, qui critiquent de plus en plus vivement la brutalité, l'arbitraire et l'inefficacité de ces châtiments spectaculaires jugés incompatibles avec une société fondée sur la raison. Peu à peu, une nouvelle conception de la justice émerge, selon laquelle la peine ne doit plus seulement frapper le corps de manière visible, mais agir de façon plus mesurée, plus rationnelle, en cherchant à corriger les individus plutôt qu'à simplement les punir. C'est dans ce contexte intellectuel que s'impose progressivement l'idée selon laquelle la privation de liberté pourrait constituer une peine à part entière, capable d'exercer une influence durable sur le comportement des individus. La Révolution française marque un moment décisif dans cette évolution, puisque le Code pénal de 1791 reconnaît officiellement la prison comme une peine, ce qui constitue une rupture majeure avec les pratiques antérieures. Cependant, cette transformation juridique pose immédiatement un problème très concret, car les bâtiments existants, souvent hérités de l'Ancien Régime, ne sont absolument pas adaptés à cette nouvelle fonction, puisqu'ils n'ont jamais été conçus pour accueillir des individus condamnés à purger une peine longue dans des conditions organisées. Il devient donc nécessaire d'imaginer et de construire de nouveaux espaces spécifiquement dédiés à cette forme inédite de punition. C'est en 1801 qu'apparaissent les maisons centrales de force et de correction. La majorité des prisons sont installées dans des bâtiments déjà existants. Les architectes fabriquent du neuf avec de l'ancien. Les prisons de Fontevraud et de Clairvaux sont aménagées dans des abbayes. Les maisons d'arrêt de Loches et de Clermont-sur-Oise dans des donjons. Éclaircissons tout de suite les termes que nous allons employer tout au long de cet épisode grâce à un document, les extraits des lois et règlements concernant l'administration et la police des prisons, conservés sous la cote EDEP 132-4J1 aux archives départementales d'Indre-et-Loire.
Il y aura dans chaque arrondissement une maison d'arrêt pour y retenir les prévenus. Et, près de chaque cour d'assises, une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps. Les préfets veilleront à ce que ces différentes maisons soient non seulement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée. Les gardiens de ces maisons seront nommés par les préfets. Les gardiens des maisons d'arrêt, des maisons de justice et des prisons seront tenus d'avoir un registre. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur. L'acte de remise sera écrit devant lui. Le tout sera signé tant par lui que par le gardien. Le préfet est tenu de visiter, au moins une fois par an, toutes les maisons de justice et prisons, et tous les prisonniers du département.
Afin d'encadrer les détenus, l'administration pénitentiaire recrute du personnel. Le directeur, il est placé sous l'autorité du préfet et du sous-préfet. C'est lui qui dirige tous les services. Deux fois par an, il fait le tour de chaque prison de sa circonscription pour vérifier l'état des services. Le gardien-chef. Il est placé sous l'autorité du directeur. Il assure la garde des prisonniers, le maintien du bon ordre et de la discipline. C'est lui qui tient le registre d'écrou. Le gardien-chef rend compte du fonctionnement interne de la prison, les libérations, les punitions, les relations entre les prisonniers. Il assure le travail administratif, l'état des magasins, la lingerie, le vestiaire, la literie, la trésorerie, et parfois même celui de greffier. Sa fonction l'oblige à loger dans la prison. Il doit en effet être présent au transfert des détenus, qui peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, et prendre en charge les prisonniers maintenus au secret. Il est aussi tenu responsable en cas d'évasion. Ces hommes feront l'objet d'un prochain épisode. Le gardien ordinaire, il est placé sous l'autorité du gardien-chef et ne peut exercer aucune autre profession. Il est tenu de porter l'uniforme et il est logé à l'extérieur de la prison. La surveillante est affectée au quartier des femmes. Elle est en général l'épouse du gardien-chef, et ce depuis l'arrêté de 1841, portant la femme du gardien-chef comme chargée de surveillance du quartier des femmes. Quelques personnes de l'extérieur peuvent également venir travailler dans la prison. C'est le cas du barbier qui se rend à la prison tous les vendredis midi pour raser les détenus et leur couper les cheveux si nécessaire. Le médecin rend quotidiennement visite aux détenus à 8h du matin et inspecte les dortoirs et les lieux de punition. Les autres locaux sont vérifiés tous les 15 jours. Un registre établi par le médecin rend compte de l'état sanitaire de la prison et de ses occupants et doit être paraphé par le maire de Loche. La petite sœur de la charité est attachée au service de la lingerie et s'y rend une fois par jour. Une pièce correcte, dont seul le gardien-chef possède la clé, lui est allouée avec un poêle, des rideaux, une armoire, une table et une chaise. Elle n'a aucun rapport direct avec les prisonniers, excepté s'ils tombent malades. En revanche, elle peut communiquer avec les prisonnières sur simple demande. L'aumônier célèbre la messe tous les dimanches à 8h et il donne des cours d'instruction morale et religieuse tous les jeudis midi. Tous les détenus, hommes et femmes, sont soumis au même régime. À leur arrivée, les prisonniers sont fouillés par le gardien-chef et les femmes par la surveillante. Le détenu se voit attribuer un numéro d'écrou propre à chaque type de registre. Un détenu passé par différentes prisons reçoit donc plusieurs numéros portés dans différents registres. Les écrous apportent de nombreuses informations sur les détenus. État civil, description physique, habillement, profession, motif d'incarcération, avec mention du jugement le cas échéant, durée de la peine et la destination carcérale ainsi que la levée d'écrou. Les registres d'écrou sont classés par établissement pénitentiaire et pour chaque prison par type, selon la catégorie pénale des détenus. Ainsi, on trouve plusieurs typologies de registres d'écrou. Les registres d'arrêt qui concernent les individus sous mandat d'arrêt ou de dépôt et en attente de leur jugement. Les registres de correction pour les peines inférieures à un an. les registres de justice pour les personnes en attente de leur jugement à la cour d'assises, les registres de simple police pour les condamnés par les tribunaux de simple police, les registres d'étiers pour les personnes détenues pour dette, les registres des passagers pour les détenus en cours de transfert entre deux établissements, et enfin, les registres provisoires pour les détenus à titre provisoire. Pour la prison départementale de Loches, les archives départementales d'Indre-et-Loire conservent les registres de la maison d'arrêt, de correction, de simple police, d'étiers et passagers. Ces registres sont pour nous une source d'informations très importante, et il n'est pas rare de croiser dans certains cas le nom d'un ou d'une collègue dont la famille est issue du Sud-Touraine. Dès 1791, les personnes condamnées à des peines de prison se voient confisquer leurs vêtements personnels et sont astreintes au port d'une tenue pénale. La composition du costume pénal est assez stable dans le temps. Les règlements successifs listent à peu près les mêmes effets. Pour les hommes, il est composé d'une vareuse, d'un pantalon, d'un gilet, d'un béret, de chaussons et de sabots. Pour les femmes, il comprend une robe, un tablier, des bas de laine, un fichu, des sabots et des chaussons. Le tissu, médiocre et rugueux, utilisé pour sa confection, donne son surnom à cette tenue, le drogué. Sa couleur peut varier, mais reste volontairement terne et peu salissante, oscillant entre le marron et le gris. À cela s'ajoute la coupe des cheveux pour les femmes et la tonte des cheveux, moustaches et barbe pour les hommes. Le port de cet uniforme répond à deux enjeux principaux. Tout d'abord, sanitaire. Il s'agit d'éviter de faire entrer en détention les éventuelles maladies et parasites véhiculés par les vêtements des arrivants. Puis, sécuritaire. Le retrait des effets personnels permet d'ôter aux condamnés tout objet qu'il pourrait utiliser contre le personnel, les autres détenus ou lui-même, boucle de ceinture ou lacets par exemple. Le port du costume pénal, très reconnaissable, et de sabots vise également à décourager et entraver les projets d'évasion. Mais le port du costume pénal contribue surtout à une puissante stigmatisation du condamné. Marqué du sceau de l'infamie, il identifie l'individu à un groupe déviant, symboliquement exclu de la société. Il fait ainsi partie intégrante du châtiment. Associé au numéro d'écrou qui neutralise l'identité de l'individu, il est aussi un outil de dépersonnalisation. Dans la société, le vêtement est en effet un support d'affirmation personnelle et sociale de l'identité, de la personnalité. Le costume pénal efface la personnalité, au profit d'une silhouette anonyme. Les détenus doivent respect et obéissance au personnel. Les différentes catégories de prisonniers doivent être obligatoirement séparées, hommes et femmes, majeurs et mineurs, condamnés et prévenus. Par conséquent, les promenades se font en alternance. Le rythme des journées est calé en fonction des saisons. En effet, jusqu'en 1911, il n'y a pas d'électricité à la prison départementale de Loches. L'ensoleillement jouera donc un rôle important dans la gestion du quotidien. Le règlement de la commission de surveillance fixe les horaires qui se répartissent ainsi. Le coucher a lieu le soir à 20h du 1er mai au 30 septembre et à 19h le reste de l'année. Le lever est à 7h en décembre, janvier et février, 6h en mars, avril, octobre et novembre. Et à 5h en mai, juin, juillet, août et septembre. Enfin, une prière, choisie par l'aumônier de la prison, doit être dite à haute voix, au lever et au coucher. Le règlement de Loches précise également que les prisonniers sont tenus de balayer et nettoyer les escaliers, les cours et les latrines, et de tirer l'eau au puits pour le service de la prison. En cas de refus d'obéir à cette injonction, le prisonnier récalcitrant est mis au pain sec et à l'eau, jusqu'à ce qu'il accepte de s'y soumettre. Au XIXe et XXe siècle, le détenu n'a pratiquement aucun droit, si ce n'est obéir. Dans cette société parallèle où l'individu n'a aucun droit et perd sa personnalité, le besoin d'exister conduit les détenus à faire preuve d'imagination, en laissant par exemple des graffitis, preuve de leur passage. Concernant les repas, il est servi 2 repas par jour à Loches. Une ration de soupe à 10h et une autre à 16h en semaine. Et le dimanche, une soupe grasse à 10h et de la viande de bœuf le soir. La soupe est composée de 15 g de beurre ou 12 g de graisse de porc, 250 g de pommes de terre, 100 g de choux, carottes, haricots ou pois verts. Une ration de pain à la farine de son est servie tous les jours à 9h du matin. Il s'agit d'une portion de 750 g pour les hommes et de 700 g pour les femmes. Le pain est d'ailleurs inspecté et vérifié chaque jour à la livraison par un des membres de la commission de surveillance ou par le gardien-chef. Pour certains détenus, les plus riches ou les moins pauvres, selon les points de vue, il est possible d'améliorer son quotidien par 2 dispositifs. Le premier est le système de la cantine, qui est à la fois un lieu et un mode d'approvisionnement de denrées payables. Par exemple, à Loches, au milieu du 19e siècle, une côtelette de mouton sur le gris vaut 25 centimes. 500 g de rillettes, 1,50 francs. Un fromage de chèvre, 25 centimes. Le prix du beurre, des œufs et du vin sera fixé selon le cours, comme il est noté sur le document conservé sous la cote 1Y48. Le deuxième dispositif est le système de la pistole, qui permet d'être affecté dans un quartier séparé du reste des détenus. C'est le gardien-chef qui en fixe les tarifs et touche les bénéfices de cette faveur. En matière d'hygiène, le règlement de l'établissement pénitentiaire Lochois prévoit que chaque prisonnier prenne obligatoirement un bain ou une douche par semaine. Le 19e siècle est une période où apparaît un souci de l'hygiène. Les responsables de prison se montrent alors soucieux de la santé des prisonniers, et cela d'autant plus que le rassemblement de plusieurs individus en un lieu clos ne peut que favoriser les épidémies. Ainsi, une lettre du préfet au sous-préfet de Loches, datée de 1857 et assortie de la mention « urgent », exige que, par mesure d'hygiène, l'eau des prisonniers soit désormais coupée au 1/32e d'eau de vie, tant que dureront les chaleurs, et qu'il soit servi 1 litre de cette eau par jour et par personne au sein de la prison. Cette mesure est censée lutter contre une épidémie de choléra, maladie dont la transmission passe entre autres par l'eau contaminée. Mais la prison ne veille pas que sur la santé des corps, puisqu'elle se préoccupe également de celle des âmes. Les règlements exigent qu'une instruction élémentaire minimale soit offerte aux détenus, de même que la possibilité d'avoir accès à la religion. Une instruction morale et religieuse est donc donnée à midi tous les jeudis. La présence de la chapelle et de l'aumônier montre que des messes étaient dites régulièrement au sein de l'établissement. Des inventaires réalisés à chaque changement de gardien-chef nous permettent également de connaître les objets présents. Si l'aspect religieux était présent, l'instruction élémentaire ne devait pas l'être. Cependant, lors de nos recherches, nous avons trouvé un inventaire des livres composant la bibliothèque pénitentiaire et des livres et recueils de prières pour la chapelle et la dite prison. La bibliothèque est composée de 40 ouvrages, très divers, dont voici les principaux thèmes. Premièrement, la morale, la religion et l'éducation civique. C'est l'un des piliers de cette collection visant manifestement à la réhabilitation morale des prisonniers. On y trouve des ouvrages au titre explicite comme « Ce qu'est le devoir » et « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Deuxièmement, les thèmes concernant les voyages et les aventures sont très présents. Ils offrent une forme d'évasion intellectuelle tout en restant éducative. Sont présents des ouvrages de Jules Verne comme « 5 semaines en ballon » et « Le désert de glace » ou encore « Robinson Crusoe » de Daniel Defoe. Enfin, des ouvrages de vulgarisation scientifique abordant le monde du travail et l'histoire font partie de l'inventaire. Clin d'œil à l'histoire du logis royal, puisqu'une biographie de Jeanne d'Arc se trouve également parmi les ouvrages disponibles. Dernier aspect de la vie carcérale, le travail demeure une constante de l'emploi du temps des prisonniers. À l'origine, le travail en prison des condamnés est une sanction avec une fonction expiatoire. Le règlement général pour les prisons départementales du 30 octobre 1841 stipule au chapitre 3, article 85, que
« Des travaux seront organisés dans chaque prison, de manière à ne laisser aucun condamné oisif. » Article 86. Tout condamné qui, sans excuse valable, refusera de travailler, sera mise au pain et à l'eau, sans préjudice des autres punitions s'il y a lieu.
L'administration pénitentiaire doit donc, si besoin, fournir du travail aux prévenus et en fournir obligatoirement aux condamnés. D'ailleurs, un plan de la forteresse daté de 1857 qualifie la tour maîtresse de « donjon servant d'atelier aux condamnés ». Ceux-ci participent aux activités de triage et d'effilochage des laines, puis de pelotage des laines. Ces activités semblent être en adéquation avec l'industrie existante du Lochois et permettaient de rythmer encore plus les journées des détenus. Ce tour d'horizon de la prison départementale nous a révélé quelque chose d'essentiel. La prison n'est pas une réponse naturelle ou inévitable au crime. C'est une invention, construite pierre par pierre, règlement par règlement, au fil de décennies de tâtonnements philosophiques, juridiques et architecturaux. Derrière les murs de la forteresse de Loches, ce sont des hommes et des femmes ordinaires qui ont vécu des existences extraordinairement contraintes. Nous espérons que cet épisode vous a permis d'entrevoir la complexité de ce monde clos et peut-être de regarder différemment ces vieux murs que vous croisez quand vous venez visiter. Dans notre prochain épisode, nous vous parlerons de la prison au féminin et nous verrons que la question du genre n'est jamais vraiment loin lorsqu'un verdict est rendu. À très bientôt pour un nouveau chapitre de Mémoire derrière les murs.